Vous écoutez Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Il est bien légitime, et en vérité extrêmement utile, que dans une période de crise, le gouvernement puisse être contrôlé par le Parlement.
Édouard Philippe devant la mission d'information parlementaire ce soir. Il n'y aura sans doute pas de déconfinement général partout et pour tout le monde en même temps, mais plutôt un déconfinement par étapes, prévient le Premier ministre. Alors que le virus continue sa propagation, 509 nouveaux morts aujourd'hui en France, mais des signes encourageants, on le verra à l'hôpital de Mulhouse. On ne part pas en vacances, même si on a une maison de campagne. Mise en garde des autorités à l'intention de ceux qui auraient l'intention d'aller prendre l'air.
Nous avons actuellement un seul TGV aller-retour pour Paris, un seul TGV aller-retour pour Toulouse et nous avons 3 TER qui sont tous systématiquement contrôlés et on affecte des contrôles au niveau des barrières de péage.
Un salarié sur 5 est désormais au chômage partiel, une mesure qui va coûter beaucoup plus cher que prévu, bien au-delà des 8,5 milliards d'euros anticipés par le gouvernement. Et dans certains secteurs en particulier, la situation commence à devenir très préoccupante. Les viticulteurs notamment ne savent pas trop comment ils vont s'en sortir.
La survie de l'entreprise, c'est très très compliqué. Plus, les clients qui ne se déplacent plus au caveau. Et avec le confinement, évidemment, plus rien ne se passe, quoi.
Et puis pour garder sa bonne humeur et son humour, hein, toujours, même en ces temps troublés, vous verrez que les internautes ont rivalisé d'imagination en ce 1er avril. Côté météo, cette journée de mercredi a été plutôt agréable. Eh bien, ce sera beaucoup moins bien demain. Anissa Haddadi vous dit tout à la fin de ce journal. La Bourse de Paris a terminé ce soir en forte baisse, moins 4,30%. On verra comment s'est passée cette journée sur l'ensemble des places financières avec Didier Hamot de Boursier.com qui sera avec nous d'ici 20 minutes. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview Echo. Et ce soir, Carole Ferry reçoit Pierre-André de Chalandard, le PDG de Saint-Gobain. Comment le géant français de la construction réagit-il face au coronavirus ?
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le début donc ce soir des auditions de la mission d'information parlementaire sur le coronavirus. Édouard Philippe et son ministre de la Santé Olivier Véran, entendus par visioconférence bien sûr, interrogés sur la gestion de la crise, notamment sur la pénurie de masques, de tests, de respirateurs, de médicaments, sur le manque de moyens général pour l'hôpital. Nous ne savons pas tout, a reconnu le Premier ministre en préambule, et il a notamment prévenu que le déconfinement ne se ferait sans doute pas en une seule fois.
Nous avons demandé à plusieurs équipes de travailler sur cette question du déconfinement en étudiant l'opportunité, la faisabilité d'un déconfinement qui serait régionalisé ou d'un déconfinement qui serait sujet à une politique de test, et si oui laquelle, ou un déconfinement qui serait en fonction, qui sait, de classe d'âge. Bref, nous sommes en train de travailler et d'expertiser des scénarios en fonction des hypothèses. Il est donc probable que nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement qui serait général et absolu en une fois, partout et pour tout le monde.
Claudia Bertram, vous avez suivi cette audition d'Edouard Philippe et de son ministre de la Santé qui, tous les deux, ont reconnu qu'ils avançaient un peu à tâtons face à cette crise qui est totalement inédite.
Oui, le Premier ministre a même commencé cette audition en jouant la carte de la transparence. Nous ne savons pas tout, nous prenons des décisions à partir d'informations souvent incomplètes et souvent contradictoires. Ce sont les mots d'Édouard Philippe qui pendant plus de 3 heures a répondu aux nombreuses questions des députés qui participaient en visioconférence. Celle du déconfinement d'abord, et vous l'avez entendu, le Premier ministre a amorcé l'idée d'une sortie par étape du confinement. L'organisation du baccalauréat a également été évoquée. Plusieurs hypothèses sont sur la table, mais difficile d'imaginer qu'il puisse se tenir dans des conditions normales, prévient le Premier ministre. Édouard Philippe qui exclut aussi le traçage numérique obligatoire pour suivre la circulation du virus. Mais la question du volontariat reste ouverte. Beaucoup de questions aussi sur le manque de masques, de blouses, de tests ou de médicaments. Sur ce dernier point, nous avons de quoi tenir, répond Édouard Philippe. Les jours qui viennent seront difficiles, encore plus difficiles, a-t-il conclu ce soir. La semaine prochaine, c'est la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui seront auditionnés.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. Alors que la liste des victimes s'est encore allongée aujourd'hui, 509 nouveaux décès dans notre pays, 4032 morts au total, mais 10 935 personnes qui sont sorties guéries de l'hôpital depuis le 1er mars et 1491 au cours des dernières 24 heures, sans compter les milliers de malades guéris chez eux qui ne sont pas passés en milieu hospitalier. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, annonce quant à elle ce soir que le nombre de morts a doublé en une semaine dans le monde. La région région Grand Est a franchi aujourd'hui le seuil symbolique des 1000 morts. Les évacuations de patients vont se poursuivre dans les prochains jours pour soulager les hôpitaux surchargés. Dans l'Est, vous savez que la ville qui a le plus souffert jusqu'à présent, c'est Mulhouse. On en a beaucoup parlé. Premier foyer majeur de l'épidémie en France, où l'on semble percevoir une lueur d'espoir ces dernières heures. Alors on va rester prudent. Arthur Enbaché, vous êtes notre correspondant dans la région. L'hôpital a communiqué aujourd'hui et il y a donc des signes encourageants.
1, 2 et 3. Les soignants ont compté ce matin à 8h30, 3 patients seulement aux urgences de Mulhouse, alors que ces derniers temps c'était plutôt 15 ou 20. Quelque chose se passe, on a peur d'être déçu, m'a dit un urgentiste. Alors on ne parle pas de pic, le fameux pic, peut-être que ça n'est qu'un faux rebond, dit-il, entre deux vagues, mais tout de même, hier mardi, activité du centre 15 la plus faible depuis 30 jours. La tension baisse aux urgences depuis à peu près 4 jours, les intubations aussi sont un peu moins nombreuses, et ce chiffre en tout, depuis un mois, 400 patients tout de même sont rentrés chez eux guéris. Ça donne le sourire, c'est bon pour le moral. Voilà deux phrases prononcées par le chef des urgences de Mulhouse cet après-midi. Inimaginable, il y a encore quelques jours. Lueur d'espoir, mais Mulhouse est toujours en pleine tempête parce qu'il y a les arrivées aux urgences et il y a la suite, le suivi en réanimation notamment. La réa, 56 lits est pleine, toujours et encore. L'hôpital de campagne sur le parking, quasi plein. Il y a 300 soignants de l'hôpital de Mulhouse en arrêt pour coronavirus ou suspicion. 20 soignants hospitalisés, 4 sont en réanimation. Le Haut-Rhin a besoin d'évacuer tous les jours 15 malades en réa, disent les médecins. Pour le moment, ça suit. Le rythme reste soutenu, notamment grâce à l'armée. Encore 6 patients évacués par avion aujourd'hui vers Toulouse. On le sait, la réanimation de patients Covid, ça peut durer 15-20 jours. Donc, pour que cette lueur d'espoir se transforme en vrai soulagement, il va falloir être patient encore.
Évidemment, Arthur Enbaché, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Est. La région parisienne, on le sait, est aussi très impactée. Aujourd'hui, ce sont 36 malades qui ont été transportés de la capitale à bord de 2 TGV médicalisés vers la Bretagne, Rennes, Saint-Brieuc, Brest. 100 patients supplémentaires seront transférés d'ici demain midi vers des hôpitaux du Centre-Val de Loire, de Normandie et des Pays de la Loire. L'Île-de-France qui est arrivée à saturation. On est au plafond, dit ce soir un porte-parole de l'autorité régionale de santé. Pas de départ en vacances en période de confinement. Piqûre de rappel aujourd'hui du gouvernement à destination de ceux qui pourraient avoir envie de quitter leur domicile. Les vacances de la zone C démarrent en effet ce vendredi. Mais lui, le virus ne prend pas de vacances et les autorités seront donc extrêmement vigilantes. Message reçu 5 sur 5 chez vous, Stéphane Place. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Nouvelle-Aquitaine. Des autorités qui promettent d'être intraitables.
Oui, d'abord avec des contrôles systématiques des trains Gare Saint-Jean. Ensuite, avec des vérifications sur les axes routiers. Fabienne Bussiot, la préfète de la Nouvelle-Aquitaine.
Nous avons actuellement un seul TGV aller-retour pour Paris, un seul TGV aller-retour pour Toulouse et nous avons 3 TER. Ils sont tous systématiquement contrôlés. Et on affecte là, justement, au niveau des routes et des autoroutes, des contrôles au niveau des barrières de péage.
Policiers et gendarmes sur les routes qui mènent notamment au bassin d'Arcachon et à la presqu'île de l'Escap-Ferré, dont le maire, Philippe de Gonneville, incite les propriétaires à ne pas louer leurs biens pendant ces vacances.
Nous avons, par l'intermédiaire de l'Office de tourisme de l'Escap-Ferré, envoyé un message aux professionnels et aux non-professionnels qui louent leurs biens sur la commune de l'Escap-Ferré, de leur dire, pendant les vacances de Pâques, ne louez pas votre bien. D'une part, nous ne sommes pas en mesure de les accueillir tant au niveau des problématiques de santé au centre médico-chirurgical d'Arès ou au niveau des médecins de ville. Et puis, nous craignons également, s'il y a une arrivée massive, de manquer un petit peu de denrées alimentaires pour tout le monde.
Et sur la seule route menant à la presqu'île, doivent être mis en place des barrages filtrants, explique le maire, pour s'assurer du respect des règles de confinement.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Notez que 2 migrants de Calais ont été testés positifs et placés à l'isolement. Une importante opération de mise à l'abri doit intervenir prochainement.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h09, merci d'écouter Europe 1. C'est la suite de votre journal et c'est aussi une conséquence directe bien sûr de la pandémie, l'explosion du chômage partiel. Le dispositif concerne désormais un salarié du privé sur 5. On rappelle que c'est l'État qui prend le relais et qui paye 84% du salaire net. 3 600 000 salariés concernés pour l'instant, c'est énorme et ça va coûter beaucoup plus cher que prévu, Olivier Samant.
3 600 000 salariés, c'est 1,5 million de plus qu'à la veille du week-end. Il y a donc une très forte accélération des demandes présentées par les entreprises. Le nombre d'entreprises concernées a d'ailleurs bondi lui aussi. Le ministère du Travail en compte aujourd'hui 337 000, soit 140 000 de plus en 4 jours. Ce qui ne fait plus de doute désormais, c'est que le coût du dispositif va allègrement dépasser les 8,5 milliards d'euros prévus initialement par le gouvernement. La dépense potentielle sur une durée de 3 mois dépasse maintenant 11 milliards. Qu'importe, semble dire l'exécutif. Les enjeux budgétaires passent au second plan. La priorité, c'est de maintenir dans l'emploi le plus possible de salariés confrontés depuis 3 semaines à un effondrement de leur volume de travail et permettre ainsi aux entreprises de compter sur la totalité de leurs équipes au moment où l'activité redémarrera. Un pari que l'Allemagne avait réussi à la sortie de la crise de 2008. La France s'en inspire aujourd'hui. Elle ne veut surtout pas tomber dans l'écueil américain. Aux États-Unis, où il n'existe pas de chômage partiel, a dit ce matin Muriel Pénicaud, en une semaine, il y a eu 3 millions de licenciements.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1, 200 000 petites entreprises ont par ailleurs sollicité le fonds de solidarité destiné aux structures de moins de 10 salariés qui ont perdu plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. L'enseigne de chaussures André, elle aussi victime de cette crise, placée aujourd'hui en redressement judiciaire, les magasins perdent entre 3 et 4 millions d'euros depuis 15 jours. André qui emploie environ 600 salariés. Et parmi les nombreux secteurs affectés, il y a également la viticulture, les petits producteurs ne peuvent plus vendre leur vin dans les caves, les bars et les restaurants sont fermés bien sûr. Et surtout tous les salons des vins qui constituent un énorme débouché pour ces viticulteurs ont été annulés. En Bourgogne, Jean-Luc Boujon, pour certains d'entre eux, la situation est vraiment catastrophique.
Oui, la situation est alarmante car plus aucune vente de vin ne se fait en ce moment. Françoise Janière est viticultrice en Côte d'Or. Elle produit des Pernans Vergelès, des Alos Corton, des Hautes-Côtes-de-Beaune, de prestigieux crus bourguignons qu'elle ne vend pourtant plus du tout, explique-t-elle.
Je travaille essentiellement avec des restaurateurs, donc là tout est bloqué. Sinon, je travaille beaucoup avec les particuliers que je rencontre essentiellement sur une quinzaine de salons tout au long de l'année. Et là, brutalement, j'ai 3 salons qui ont été annulés. Donc pour l'impact, la survie de l'entreprise, c'est très très compliqué. Plus, les clients qui ne se déplacent plus au caveau. Et avec le confinement, évidemment, plus rien ne se passe, quoi. Ça représente minimum 40 000 euros et même des fois, ça peut faire plus, quoi.
Voilà, même situation critique pour David Fagot qui produit des Pouilly Fuissé et des Saint-Véran près de Mâcon et qui a dû faire face à l'annulation de 2 salons en Allemagne et aux États-Unis où il se rendait chaque année et les conséquences se font déjà sentir.
J'ai rendez-vous avec le banquier pour demander une avance de trésorerie. J'ai un salarié permanent que je dois payer. Là, j'ai des saisonniers qu'on finit de travailler vers moi, donc que je dois encore aussi payer là d'ici quelques jours. On va dire que je suis dans le rouge, quoi.
Voilà un virus qui met donc en péril beaucoup de petits domaines hein, qui n'ont pas beaucoup de trésorerie, mais en fait c'est toute la profession viticole qui commence à sérieusement s'inquiéter.
Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 dans la région lyonnaise. Des nouvelles maintenant de nos voisins européens. L'Espagne a enregistré 864 morts en 24 heures et passe la barre des 9000 morts. Le bilan de l'épidémie s'alourdit également au Royaume-Uni avec plus de 500 morts en un jour, soit 2352. L'Allemagne va prolonger au moins jusqu'au 19 avril les mesures de restriction de contacts sociaux. Les États-Unis, eux, dépassent les 200 000 cas recensés. Et l'on a appris tout à l'heure la mort d'un bébé de 6 semaines qui avait été hospitalisé il y a quelques jours dans le Connecticut. Il était positif au Covid-19. Il s'agit vraisemblablement de la plus jeune victime dans le monde. La Floride a ordonné aujourd'hui le confinement général des 21 millions d'habitants de cet État, la Floride, où vivent de nombreuses personnes âgées, hein, particulièrement à risque. Le coronavirus et son impact sur le sport également, sur tous les sports. L'édition 2020 du tournoi de Wimbledon est annulée. Les organisateurs renvoient les fans à l'édition 2021. Jusqu'à présent, seules les 2 guerres mondiales avaient eu lieu au droit du mythique tournoi de sur gazon. Roger Federer se dit dévasté. Il n'y a pas de gif, écrit-il, pour exprimer ce que je ressens, tandis que Serena Williams se dit sans voix. Par ailleurs, tous les matchs de foot des équipes nationales, y compris les matchs de barrage pour l'Euro 2020 qui étaient programmés en juin, sont reportés jusqu'à nouvel ordre. Pas d'indication en revanche sur le devenir de la Ligue des Champions. Et puis après Canal+, c'est beIN Sport qui suspend à son tour le paiement des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en raison de l'interruption des compétitions, bien sûr, pour cause de coronavirus. Et c'est une décision qui pourrait mettre en péril certains clubs. Et sinon, il ne vous a pas échappé que nous sommes le 1er avril et en cette période de confinement, les internautes ont rivalisé d'imagination. L'occasion était trop belle, bien sûr. Magnifique série de poissons d'avril aujourd'hui, Romain Oquet, des canulars liés à l'épidémie.
Oui, et en pleine période de gestes barrières et de distanciation sociale, il y a 7 appels sur Facebook pour créer une immense chaîne humaine autour de la Terre, main dans la main, soudés, serrés les uns contre les autres pour endiguer l'épidémie. Autre astuce, si jamais vous arrivez encore à maintenir un semblant de vie sociale, déjà, bravo, vous pourrez alors suivre ce conseil d'universitaires français et suisses, validé selon eux par l'Académie française. Ces spécialistes préconisent d'utiliser le vouvoiement plutôt que le tutoiement, tout simplement parce que certains sons, comme le tu, envoient plus de postillons que d'autres. Oui, tout est dans le détail. En revanche, une mauvaise nouvelle, cet été, le Tour de France sera délocalisé en Corée du Sud, là où il n'y a pas de mesures de confinement. Le journal Le Point l'a révélé aujourd'hui. Alors tant pis pour les casquettes à pois et les porte-clés de la caravane. Bon, après, il faut l'admettre, ce 1er avril n'est quand même pas comme les autres. Peu de blagues sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ça ne fait vraiment pas rire tout le monde. À Taïwan ou en Thaïlande, par exemple, des pays qui craignent que ces poissons d'avril soient pris pour de vraies informations, eh bien là-bas, la moindre plaisanterie peut vous envoyer en prison ou vous coûter plusieurs milliers d'euros d'amende.
Et voilà pour le florilège de ces poissons d'avril de confinés avec Romane Hoquet. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. Et pour demain, Anissa, retour d'un temps moins agréable qu'aujourd'hui.
Oui, c'est exactement ça, Isabelle. Demain, plus de nuages sur les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, ainsi que sur la Gironde, le Limousin, le Massif central. Le ciel est plus couvert dès le début de journée. Et puis au fil des heures, ces nuages vont devenir de plus en plus épais. Avec sur les Pyrénées et le Roussillon, des averses tout au long de la journée. Sur le Pas-de-Calais et les Pays de la Loire, le vent de nord souffle et se lève dans l'après-midi. Si je n'ai pas cité votre région, c'est que demain, vous aurez la chance d'avoir du soleil. Les températures, elles sont toujours froide le matin avec des gelées, moins 4 à Épinal, moins 3 à Nancy et Montluçon, moins 2 à Manosque et Belfort, 0 à Clermont-Ferrand et Lille, 2 pour Paris et Brest, 4 à Cahors, 6 pour Nice et Biarritz et 9 à Perpignan, c'est la maximale. Et puis au meilleur de la journée, c'est assez stationnaire, 11 à 17 degrés, 13 à Paris, 15 à Montpellier et 17 pour Avignon.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité écho de Carole Ferry qui reçoit ce soir le PDG de Saint-Gobain, Pierre-André de Chalandard. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit, Isabelle Millet.
Et à 22h18, comme tous les soirs, on s'intéresse sur Europe 1 à la bourse et c'est avec vous Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui chute encore lourdement ce soir, inquiet de la progression rapide de l'épidémie de Covid-19 aux États-Unis.
Malheureusement, oui, pas de surprise, beaucoup d'inquiétude, une rechute lourde. Le Dow Jones, moins 4,4%, 20 943 points. Même chose pour le Nasdaq, même punition, moins 4,4%, 7 361 points. L'inquiétude est très vive sur la progression rapide, effectivement, du virus, en particulier à New York, et pas seulement. Le discours initial de Donald Trump, il n'y a pas si longtemps, qui voyait la crise se terminer pour Pâques, n'est plus qu'un lointain souvenir, et le chômage grimpe rapidement aux États-Unis. Les valeurs exportatrices retombent, Microsoft moins 4%, IBM moins 5%, Apple aussi perd 5%, Tesla dérape de 8%. On a aussi encore les valeurs de l'aérien, de l'aéronautique en forte baisse, United Airlines moins 18%, American Airlines moins 12%, Delta Airlines moins 16% et Boeing qui perd 12% à $131. Le pétrole reste toujours aussi faible, on est sous les $25 le baril, en baisse encore de 4%. Avec des inquiétudes exprimées clairement par Vladimir Poutine aujourd'hui sur le niveau des cours extrêmement faible qui appelle un compromis sur les prix selon lui, alors peut-être un geste en direction de l'Arabie Saoudite. Rappelons que c'est le clash entre la Russie et l'Arabie Saoudite qui a provoqué ce krach sur le pétrole, donc qui se négocie sous les $25 le baril ce soir. L'euro revient sous les indices, il ne bouge pas vraiment, 1,0950 face au billet vert.
Et Didier, la Bourse de Paris a aussi accusé le coup en clôture en forte baisse de plus de 4%.
4,3%, oui, forte baisse, 4207 points. Le marché a accusé le coup après les annonces de suppression de dividendes en cascade. en particulier dans les banques. Suivant cela, la recommandation de la Banque Centrale Européenne, c'est le cas de Natixis qui chute ce soir de 13%. La Société Générale, moins 9,5%. Et puis le secteur automobile aussi retombe lourdement après des chiffres d'immatriculation en forte baisse au mois de mars. Renault, moins 8%. Peugeot, moins 6%. Valeo, l'équipementier, moins 7%. Et Faurecia, moins 6%. L'aéronautique, évidemment, encore une fois plombée à l'image de Safran, moins 16%. Et Airbus, moins 12% ce soir à la clôture.
Et puis, exception du jour, hein, Vivendi qui reste orienté en hausse.
Quand même, oui. Vivendi qui reste dans le vert, qui a déjà progressé hier, qui avait bien progressé, qui remonte encore de 2%. Vivendi proche des 20 euros, conforté par l'agence Moody's dans sa perspective de notation financière stable, grâce en particulier à sa pépite, sa position très forte dans sa filiale Universal Music. Vivendi en hausse de 2% sur les 20 euros ce soir à la clôture. Sur les autres places financières, ça baisse partout, fortement. Francfort, moins 3,9%. Londres, moins 3,8%. Madrid, moins 3%. Bruxelles, moins 2%. Milan perd 3%. Et donc le CAC 40, moins 4,3%. 4207 points.
Eh bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Didier Hamo de Boursier.com. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité éco sur Europe 1. Carole Ferry, vous recevez ce soir le PDG de Saint-Gobain.
Pierre-André de Chalandard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le PDG de Saint-Gobain, géant français des produits de construction. Vous êtes donc au cœur du secteur du bâtiment, au cœur donc de cette contradiction qu'on a beaucoup entendue ces 15 derniers jours, à la fois rester chez vous, mais aussi aller travailler. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que l'activité qui s'est arrêtée au moment du confinement reprend?
Alors, elle a repris de manière différente selon les endroits. Nous avons repris une partie importante de nos activités de distribution de matériaux, puisque nous avons, il y a une partie qui n'a jamais fermé, il y a une partie qui a fermé quelques jours, le temps que nous mettions en place les mesures de sécurité les plus drastiques concernant nos salariés. Donc nous avons établi des protocoles qui nous permettent en fait qui nous ont permis de réouvrir à peu près la moitié de nos agences de distribution, donc les points P, la plateforme du bâtiment. Alors pour les avec des consignes de sécurité extrêmement strictes, puisque les commandes se passent par téléphone, les professionnels, puisque c'est uniquement les professionnels, hein, viennent chercher leurs matériaux dans la cour, hein, il n'y a pas de contact. On a mis en place des protocoles qui font que les règles de distanciation sont tout à fait possibles et respectées, et que ça fonctionne très bien, sauf que l'activité est faible. Et si je passe aux usines maintenant, puisque notre activité industrielle est aussi très importante, alors là, vous avez différents cas de figure en France. Vous avez les usines qui servent l'industrie automobile, hein, le verre automobile, celles-là, elles sont arrêtées, puisque toute la filière automobile est arrêtée. Ce qui sert les matériaux de construction, là, nous avons une activité assez réduite, mais nous avons un certain nombre d'usines dans chacun des métiers qui fonctionnent. Et puis nous avons d'autres activités. Nous avons une petite activité qui fait des tubes pour le domaine de la santé. Alors celle-là, elle tourne à plein, puisqu'elle alimente notamment Air Liquide pour les fameux respirateurs dont on a tant besoin pour arriver à accélérer très fortement la fabrication de ces respirateurs dont on a tant besoin.
Pour un grand groupe comme le vôtre, avec des activités très différentes, au final, vous diriez que c'est quoi l'impact actuellement?
Alors d'abord, il est très différent selon les pays. Hein. Si je commence par les bonnes nouvelles, c'est-à-dire la Chine, hein, qui s'est arrêtée complètement pendant quelques semaines en février, on est en voie de reprise très rapide. Et là, d'une semaine à l'autre, la reprise ça s'accélère. Puisque cette semaine, on est à peu près à 80% de l'activité normale. Donc la Chine est repartie. Les autres pays, si vous voulez, la situation est assez variable. En Europe du Sud, globalement, on est un peu comme en France. Hein. En Europe du Nord, il y a une activité qui a continué de façon un peu plus importante. Et les États-Unis, la situation est très variable selon les États. D'ailleurs, c'est très compliqué, les États-Unis, parce que, comme vous le savez, il n'y a pas une grande coordination au niveau fédéral. Et donc, c'est les gouverneurs qui ont pris des mesures différentes selon les États.
Est-ce que vous avez fait appel aux outils mis à la disposition par le gouvernement, tout ce qui est le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, etc.
Alors, nous, on n'a pas eu besoin des prêts garantis. D'ailleurs, la structure financière du groupe est solide. On n'a pas bien sûr non plus demandé le report de charges sociales. Par contre, on a beaucoup de salariés qui sont au chômage partiel, dans les activités industrielles qui sont arrêtées notamment. C'est moins de la moitié du groupe, des effectifs du groupe Enfant, mais ça c'est significatif.
Alors vous avez également lancé plusieurs initiatives de dons. 100 000 masques par exemple pour les personnels soignants en France, vous fabriquez des tabliers en Espagne. Ça se décide comment toutes ces actions de solidarité ?
Écoutez, moi ce que je trouve, c'est fait partie des choses très positives, s'il faut en trouver, de cette guerre contre ce terrible virus dans laquelle on est tout, c'est que ça crée, on le voit à tous les niveaux, ça crée des élans de solidarité. Les masques qu'on avait, on les a donnés là où il y en avait le plus besoin. Il y a beaucoup de cadres qui nous ont dit comment est-ce qu'on peut participer à la fois à une solidarité dans Saint-Gobain et à un effort collectif. Donc je crois qu'il y a beaucoup de... Il y a un sentiment qui est compliqué en ce moment, c'est que vous avez, une série de personnes qui sont, si j'emploie le vocabulaire militaire du président de la République, qui sont au front, et puis vous l'avez les autres. Donc ceux qui sont au front, les autres ont envie de les aider aussi. Ils se disent, oui, j'aimerais participer à l'effort de guerre.
Alors, diriger une entreprise, c'est aussi être visionnaire. Vous voyez comment la reprise, la date, je ne vais pas vous demander, hein, vous n'avez pas de boule de cristal, mais certains disent la consommation va reprendre très vite, les gens vont rattraper ce qu'ils n'ont pas pu acheter, d'autres vont dire, oh là là, ça va être une reprise de longue haleine. Votre sentiment à vous, c'est quoi ?
C'est pas très facile à dire. Moi, si vous voulez, je pense que les mesures du gouvernement français ont été bonnes et sur le chômage partiel. C'est que l'idée, c'est de ne pas abîmer le moins possible l'outil productif pour qu'il puisse repartir. Si je regarde ce qui se passe en Chine, ça repart relativement vite. Est-ce que ça va être la même chose en Europe ? J'espère. Je pense que je vois quelques lumières, si vous voulez aussi, c'est que on a depuis quelques jours, on sent qu'en Italie, on est en train de passer le nombre d'arrivées en réanimation à décroît. Donc ça c'est plutôt bon signe. Donc j'espère qu'en France, comme on a pris des mesures assez drastiques, on va avoir un confinement qui sera pas trop long. Hein. Et après, moi je suis, je pense qu'il faudra un effort de relance. Je pense que pour Saint-Gobain pourrait y participer, parce que si vous voulez, je crois beaucoup que notamment au niveau européen, tout ce qui est lié au Green Deal, c'est une très bonne manière de faire de la relance. Il ne faut pas abandonner la lutte sur le sujet climatique, qui reviendra au premier plan, ce serait une bonne occasion d'accélérer. Donc nous, on participera à cet effort. Après, si vous voulez, ça ne va pas repartir d'un coup, mais nous préparons beaucoup à la reprise et nous, on sera prêts. Après, le sujet, il va être plus, à mon avis, la demande que l'offre. Je pense que l'offre se remettra en route relativement facilement.
Mais vous restez optimiste.
Écoutez, de toute façon, quand on est chef d'entreprise, il faut être optimiste et il faut être dans l'action. Ça ne sert à rien de se lamenter, hein. Ça ne sert à rien de regarder le passé, ça ne sert à rien de regarder est-ce qu'on aurait pu anticiper mieux. Il faut regarder les choses le plus positivement possible dans l'action. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire.
Merci Pierre-André de Chalandard d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à vous, Carole Ferry. Retour de l'interview Écho demain, même heure sur Europe 1. Et tout de suite, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les titres que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? Et la palme du titre revient, selon moi, ce soir à Libération. Comment tenir sur la denrée ? Illustré par la photo d'un homme qui porte de lourds sacs de course. Difficultés de production, transport compliqué, achats compulsifs des consommateurs. Pour nourrir les Français en temps de pandémie, toute la chaîne alimentaire a dû s'adapter. Les réanimations vont-elles manquer de médicaments ? S'interroge le Figaro. Indispensables aux patients placés sous respiration artificielle, les hypnotiques, les myorelaxants et les anti-infectieux sont soumis à une explosion de la demande partout dans le monde. Le casse-tête de l'école à la maison, titre le journal La Croix, les classes pourraient rouvrir seulement le 4 mai. Et si l'enseignement à domicile s'organise, il accentue aussi les inégalités. Nouvel ordre mondial, le grand jeu de Pékin, titre l'opinion. Face à la crise sanitaire actuelle, les Occidentaux semblent marquer le pas face à une Chine qui profite de leur affaiblissement pour imposer sa vision du monde. Démocratie, le test de résistance, titre l'hebdomadaire Courrier International. Avec le Covid-19, c'est plus qu'une crise sanitaire majeure qui frappe le monde. C'est aussi une crise politique qui éprouve nos institutions et qui met en lumière la fragilité des États. Comment le virus a contaminé les marchés financiers, titre les Échos. Après le rebond des deux dernières semaines, les bourses ont de nouveau plongé dans le rouge. Aujourd'hui, on a vu ça tout à l'heure avec Didier Hamo de boursier.com. Tandis que le journal La Montagne, Pascal Ratineau revient sur la gestion de la crise par Donald Trump. Le ton avait beau être grave, voire sombre, pour préparer les Américains à la pire hécatombe depuis 39-45, Trump, écrit-il, ne fera pas oublier les 15 jours précédents. Ses atermoiements et l'impréparation de son administration, ce temps où il pensait plus à l'économie qu'à la santé des citoyens, ce temps où, bien aidé par Fox News, il se moquait de ce virus, pas plus méchant qu'une grippe, mais qui risque pourtant de mettre l'Amérique à genoux. Dans les prévisions les plus basses, le nouveau coronavirus devrait faire 3 fois plus de morts américains en quelques semaines que la guerre du Vietnam n'en a fait en 12 ans. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 et nul doute qu'elle sera excellente puisque vous êtes en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir,
eh bien,
Olivier.
Oui, bonsoir Isabelle.